bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Caroline Diamant, Maureen Dor, Jean-Luc Lemoine, et le célèbre duo Vermus et Bénichou. Je savais que ça allait vous faire râler dès le départ, ça, Pierre. Le duo, Vermus et Bénichou, ça vous plaît pas, hein?
Pas du tout, je suis flatté.
Faites pas le faux d'air, ça vous gêne qu'on vous mette mon nom à côté du vôtre,
bien. Pas du tout, sans ça, je viendrai pas dans cette émission.
Vous êtes sincère, là? Vous savez bien que ma notoriété à côté de la vôtre n'existe pas.
Mais non, monsieur, mais c'est vous qui êtes enfin écouté.
Mais si, vous le savez bien. Allez, pas de manière. Allez, dites-moi ce que vous pensez de moi et on sera tranquille pour la journée.
Bon, nous, au spectacle.
J'ai vu des masos, mais comme ça, rarement.
Maureen Dor, vous allez bien?
Oui, j'ai très bien.
Bon,
oui,
parfait. Merci. Légèrement maquillée, juste ce qu'il faut pour plaire à Pierre.
Je prends note des choses. Et alors, c'est ce que me disait mon mec ce matin. Il me dit, dis donc, t'es vachement bien, toi, pour aller bosser. Je fais, écoute, j'entends les remarques. On me dit, une fois que j'ai l'air de n'importe quoi, d'une souillon, etc., parce que je ne suis pas bien, alors après, je fais attention.
Mais ça, c'est vraiment les jeunes générations. T'es drôlement bien pour aller bosser. Quand est-ce qu'on va être bien si c'est pas pour aller bosser? Le travail, c'est un truc qu'on fait en plus pour gagner de quoi avoir une vie de rêve. Tous ces gens-là sont surpayés, évidemment. Et alors, on dit, t'es drôlement bien pour aller bosser. T'y vas en savate bosser. Mais moi, de mon temps, on s'habillait le dimanche pour aller à l'église et on s'habillait les jours de semaine pour aller au travail. On était très contents. Et quand votre chef, vous voyez, il vous disait... Pas mal ce petit costard, et on le remettait, voilà. Maintenant, on y va.
Tu dis ça parce que t'as pas vu les chaussures de Caroline Diamant.
On y va en jogging et en machin, écoutez, vraiment, sérieusement.
C'est quoi les chaussures de Caroline Diamant?
Regardez, enfin, on va pouvoir les décrire. Elle vient en sabots, carrément.
Des petits sabots suédois.
Des sabots suédois.
On peut pas cautionner ça, Pierre, franchement.
J'aime beaucoup ce pays.
Bientôt, les hommes viendront en t-shirt.
Mais vous, Bénichou, vous viendrez pas à l'idée d'aller travailler sans une veste en cachemire, une petite cravate qui va avec la couleur de la veste, un pantalon à plis, hein?
Pierre ne met pas de veste en cachemire, il paraît que ça donne des tremblements.
Ah bon? Ah, vous n'avez absolument pas une veste en cachemire? Je laisse le cachemire pour les millionnaires du Schmattes. Moi-même, j'ai des vieux tweeds. Je passe du cachemire.
Vieux tweed.
Je ne connaissais pas cette expression.
Qu'est devenue Maureen Dor, me demande Franck, votre bouc émissaire favorite? C'est-elle, finalement, que vous rabaissez le plus souvent? Et pourtant, ses opinions sont plus proches du peuple que vous ne l'êtes tous. Voilà, Maureen, vous êtes proche du peuple, pensent les auditeurs.
Ah, c'est pour ça
qu'elle est là.
C'est pour ça qu'on la trouve un peu...
Je suis la voix du peuple.
Qu'on la trouve un peu mauvais genre, vous êtes proche du peuple.
Mais le peuple est aussi belle.
Elle est aujourd'hui ravissante.
Ah oui.
Gentille, délicieuse, d'une délicatesse.
C'est le aujourd'hui qui fait
mal. Voulez-vous une anecdote?
Oui.
J'allais prendre un café avant d'arriver vers cette émission et je vois du bout de la rue Pierre, une voix, j'entends une voix absolument charmante. Je me retourne, c'est Maureen. Je me mets au café, j'attends qu'elle arrive. J'attends encore. Pourquoi n'es-tu pas venu, lui ai-je demandé après, une fois que nous étions devant ce micro. Et elle me répond, par délicatesse, j'ai eu peur de t'ennuyer.
Elle a tout à fait raison, parce qu'on peut pas dire que vous soyez extrêmement sympathique, vous êtes terriblement bougon. Dire, on vous dit bonjour, vous répondez même
et
pas.
C'est vrai que c'est quand vrai, je peux témoigner, quand elle est arrivée à la radio, elle a dit, c'est bon, j'ai évité Bénichou.
C'est bon, elle a dit, non.
Mais Pierre, c'est typique.
C'est bon.
Mais c'est vrai que Pierre, en dehors du boulot, si je le croise quelque part et qu'il est seul, je vais certainement pas aller me mettre à côté de lui. J'aurais... Typique, je me dis, je vais l'emmerder.
Ah oui?
Donc oui, ici,
moi,
je veux bien l'emmerder.
Ça me fait plaisir quand je le vois seul à une table.
Un mail pour Vermus, le sentencieux et l'inquisiteur qui aime tant rechercher la vérité chez les autres et est lui-même un grand manipulateur, nous dit Philippe. En effet, j'écoute régulièrement votre émission et à quelques semaines d'intervalle, après nous avoir expliqué qu'il était locataire rue de la Planche, il a été capable de nous asséner quelques semaines plus tard, 10 jours plus tard, qu'étant propriétaire à Paris, il était redevable de l'impôt sur la fortune. Alors, proprio ou locataire, monsieur Pipo?
Non mais alors, c'est comme une atteinte à la vie privée, mais puisque vous voulez des explications, je suis obligé de vous les donner. J'ai l'impression d'être à Bercy.
C'est pas une atteinte à la vie privée, c'est pas une atteinte à la vie privée. Si c'est vous-même qui en avez parlé à la fois que vous étiez
locataire. Si c'est moi-même qui en ai parlé, ouais, bah si vous le dites, c'est que vous avez raison, il n'y a pas de souci.
C'est pas un journaliste de François qui va nous donner des leçons sur l'atteinte à la vie privée.
Voilà. Vous commencez, ça y est. Alors bon, une explication, on peut très bien être propriétaire d'un appartement à Paris et locataire d'un appartement à Paris parce que celui dont vous êtes propriétaire est trop petit pour vous. Donc vous habitez plus grand.
Ah, donc les deux fois, vous avez dit la vérité. Voilà. Bravo, Paul.
Merci, Laurent.
Ah non, mais c'est bien de rectifier.
Bravo. Et comme il n'est pas ministre, on s'en fout.
Merci.
Francesca m'écrit, Pierre, vous êtes merveilleux, c'est pour vous Pierre Bénichoux.
Merci Francesca.
Nous sommes rencontrés à Marseille, dit Francesca, à une soirée Beaujolais avec votre dentiste. Vous avez chanté Les Feuilles Mortes chez Hervé.
Oui, c'est vous, ça, c'est lui, c'est lui, c'est lui.
À quand une prochaine soirée ensemble, demande Francesca.
Ah oui, c'est vrai, j'avais chanté Les Feuilles Mortes. J'avais eu un succès fou ce soir-là.
Enfin, cette histoire a une vieille barbe, le Beaujolais, c'est le mois de novembre.
Qu'est-ce qu'il dit le proprio locataire, là?
Bon, laissez-moi un peu tranquille, monsieur Bénichoux.
Je suis contrôleur SNCF. Nous rencontrons actuellement beaucoup de voyageurs transportant de nombreuses malles très volumineuses d'un mètre 80, bloquant les autres voyageurs, bloquant même l'accès aux portes de sortie, mettant même leurs bagages sur les plateformes et ne s'occupant pas de savoir si les autres voyageurs ne sont en rien gênés lors de leur montée dans le train. Voilà pourquoi je tiens à être solidaire du contrôleur qui a mis, vous savez, un petit PV à ceux qui avaient transporté des contrebasses dans le train. C'est un contrôleur qui nous écrit. Il faut choisir transporter des voyageurs ou des bagages, monsieur Bénichoux. Sachez-le. Vous répondez quoi à ça?
Pourquoi est-ce que ça serait à moi de répondre? Parce que j'ai dit que c'était une bévue. En effet, non, si le train est bondé, il ne faut pas, mais deux petits musiciens qui arrivent avec leur contrebasse, allez les emmerder, leur filer une amende, c'est ridicule.
C'est Tony Curtis.
Comment voulez-vous qu'ils mettent dans un train de marchandises leur contrebasse, s'ils ont joué le jeudi soir à Paris, qu'ils vont jouer le vendredi soir à Brest? Le temps que le truc arrive, ils pourront pas jouer le vendredi.
Caroline.
Non, je pense que ça a dû le préoccuper toute la
nuit. On vous laisse rentrer, vous, dans les trains. Hein.
Oui, mais avec une amende.
De profil, dans les allées, de profil.
Caroline.
Est-ce que vous connaissez la définition de la contrebasse?
Non, allez-y.
Elle est magnifique. La contrebasse a les formes de maman et la voix de papa.
Oh, c'est comme joli, c'est mignon, hein, vu d'un petit triangle comme vous.
Et oui, moi j'aimerais pouvoir en sourire aussi. Seulement c'est des vieilles plaisanteries que son mec, un musicien, doit lui raconter. Et l'idée de ce couple, enfin... L'idée de cet accouplement me semble tellement contre nature.
Enfin, mais ça va pas, Pierre.
Vous êtes jaloux, vous avez des aigreurs
ils
invraisemblables.
Bien sûr que je suis jaloux.
Mais vous n'avez pas à être jaloux, elle a fait sa vie.
Elle a fait sa vie.
Vous avez fait la vôtre, laissez-les vivre.
Oui, mais peut-être que...
Non, enfin, il vous les faut toutes. Hier, c'était Claude Sarraute, aujourd'hui, Maureen Dor.
Ouais, c'est vrai. On ne peut pas dire que je ne suis pas éclectique. Hein.
Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Gêner la suite des mails. J'ai Arnaud qui me dit, à l'instar d'un autre auditeur, je trouvais l'émission entrée dans un train-train, mais là, depuis quelques jours, et particulièrement depuis deux jours, je bois du petit lait. Les coups de gueule, les prises de bec, les débats passionnés sont hilarants. Pierre Bénichoux m'a fait pleurer de rire hier avec l'émission sur Bernadette Chirac. Merci. Vous vous êtes réveillé, continuez comme ça. Vous voyez, Pierre, vous avez eu un petit passage à vide pendant 15 jours. Et puis
pendant
ça...
15 jours.
Et voilà, il va nous vexer.
Ce fainéant est tellement habitué à rien foutre, à tout laisser faire.
C'est vrai qu'il
évidemment que ça a été 15 secondes, peut-être. Je ne l'ai pas tenu à bout de bras.
Monsieur Bénichoux.
15 jours.
Monsieur Bénichoux.
Ça, c'est une vraie phrase de patron. Ça, c'est pendant. Non, c'est vrai que pendant une émission, j'étais très mauvais.
Oui, j'étais là.
Maintenant, c'est 15 jours.
Ah non, moi aussi, j'étais là.
Ah bah oui, ça fait déjà deux émissions.
Non, rappelle-toi, c'est vrai, moi, c'était il y a 15 jours. Parce que je viens tous les 15 jours.
Mais... On dit tous, j'étais là, c'est comme quand Zidane marque un but, quoi.
Ah non, ça...
Oui, mais il a mis 15 jours à remonter petit à petit, à prendre pied, vous voyez comment c'est. Bon, voilà. La béniche aurait-il offert, après s'être moqué quand même des heureux et généreux donateurs de l'émission de Bernadette Chirac, la béniche aurait-il offert, lui, au moins un petit bout de sa Velsatis pour l'association de Madame la Présidente?
Joli cadeau, un petit bout de Velsatis.
Pare-choc de Velsatis.
Un pare-choc de Pierre Bénichoux, ça aurait été chouette.
En parlant de générosité, vous avez lu ce petit bout d'article dans Le Parisien sur Anne Hidalgo et Balladur? C'était dans le marché.
J'allais en parler pendant cette émission, Maureen, mais allez-y, dès maintenant, si vous voulez, puisque c'est vous la rédactrice en chef de cette émission maintenant. Allez-y, allez-y, Maureen Dor.
Mais pas du tout.
Tout part à volo.
Oh, tiens, Jean-Luc Lemoine qui vient de se réveiller après sa pièce
mais
d'hier
vous
soir.
Avez des humeurs, hein, Laurent, aujourd'hui.
Je vais me réveiller à 16h35.
On va tous en prendre pour notre gras, je pense.
Voilà, oui, je sens que.
Vous n'êtes plus tout à fait le même, hein. Pardon. Vous en voulez. Je dis, vous n'êtes plus tout à fait le même. Vous en voulez à Bénichoux, vous accusez Maureen de prendre votre place. Vous êtes étrange aujourd'hui.
Je vous en pose des questions vers
moi. Non, mais enfin, je suis un peu chez moi maintenant. Je suis locataire, hein.
Alors allez-y, Maureen, racontez si
mais
vous voulez.
Donc,
mais c'est... sauf que ça interrompt les mails, vous voyez.
Ah,
puis
bah
on va
non,
revenir
non.
à l'actu après. Vous voyez, il y a
non,
une logique.
Je ne savais pas que vous alliez en parler, donc je me disais sinon, est-ce que je vais faire
article,
preuve d'à propos.
Est-ce qu'il y a un article dans la presse qui aurait pu m'échapper, Maureen Dor?
Non.
Ouais, en
non,
général, le seul que j'ai.
Maureen, il y a encore 15 jours, j'aurais pris ta défense, mais là, il est tellement remonté. Et comme il garde encore quelques crédits avec les hautes sphères de la maison, j'ose pas m'opposer à lui. Mais je pense que son attitude avec toi est immonde. Non, mais sérieusement. Et je serais capable de te le dire avec le micro ouvert. Non, vraiment.
Monsieur Bénichou, les Pays-Bas vous disent merde à voix haute. Voilà, c'est signé Dev.
Eh bien, c'est bien.
Non. Non, pas Dev.
Je vous jure, c'est vrai, c'est
non.
écrit.
Non.
Oui, enfin, puisque je vous dis voilà.
Ah, mais Dev, en plus, je l'aime bien, Dev.
Ouais, c'est peut-être pas le vrai Dev, il y a plusieurs Dev.
Ah
pas...
non, quand on signe
ah non,
Dev, c'est Dev.
Dev des Pays-Bas,
hein.
Non.
Dev, c'est Dev.
Pour ceux qui étaient absents, qu'est-ce qui s'était passé?
Oh bah Pierre s'en est pris aux Pays-Bas, aux homosexuels, aux tulipes.
La routine, quoi.
J'ai pas parlé des homosexuels du tout.
Ah bah si, hier on avait dit que les deux homosexuels pouvaient pas s'embrasser sur une affiche dans le métro.
J'avais dit de dire qu'on peut mettre des affiches avec les homosexuels qui s'embrassent, c'est supposer le problème de l'homosexualité résolu. Or il n'est pas résolu, il faut se battre pour qu'il y ait toute la liberté, mais ne pas faire semblant de croire que les Français ne vont pas être choqués par ce genre d'image. Voilà, moi je suis pour toute liberté et je suis contre l'affichage qui ne peut que faire reculer cette conquête à venir.
Je te sens quand même un petit peu coincé personnellement.
Mais sinon
tu aurais déjà pris Paul Vermus à pleine bouche.
Non, sinon de toute façon l'affaire est close puisqu'on a le droit de voir ces deux photos, ces deux affiches. Alors,
bien sûr, c'est
plus.
Dans le
donc
métro.
C'est clos, c'est réglé, voilà.
Je suis au boulot, me dit Nico, qui m'envoie un mail assez rigolo. Je suis au boulot, la radio est allumée, seulement le son est faible. Et si je me lève pour augmenter le volume, je risque de me faire remarquer. Pourriez-vous parler plus fort? Ça, c'est rigolo, quand même. Bonjour Laurent, j'aimerais vous dire que j'ai une profonde admiration pour vous, même si parfois je trouve votre humour de mauvais goût, me dit Fatea. Notamment vos plaisanteries contre Mireille Mathieu. Voyons Laurent, dites-moi, avez-vous une dent contre elle? Ne pensez-vous pas que vous exagérez vis-à-vis de Mireille Mathieu? Vous avez parfois un humour qui peut blesser, même si ce n'est pas méchant. Il y a des gens qui sont susceptibles. Je vous souhaite une très bonne continuation, mais ne touchez plus à Mireille Mathieu. Ben, je serai le premier à y toucher, de toute façon. Mais...
Voilà, il ne peut pas s'en empêcher.
Non, mais moi, je trouve que c'est qu'il a tort. Dieu sait que je respecte les auditeurs, parce que c'est quand même courageux d'attaquer Mireille Mathieu. Hein.
Il me semble déceler une pointe d'ironie.
Bah, écoutez, on peut c'est pas d'attaquer Mireille Mathieu parce qu'elle est inattaquable d'abord, c'est de s'en moquer. Non,
bah, oui, il y a quand même
elle
de quoi. C'est quand même, il y a de quoi se moquer de Mireille Mathieu.
Bah voilà,
non, mais franchement, on va pas non plus faire comme si de rien n'était.
J'ai le souvenir d'une émission avec Mireille Mathieu et je me souviens d'une conversation entre Johnny Stark et Mireille Mathieu dans le couloir avant de passer dans le studio. Et Johnny lui disait, Mimi, arrête de dire des conneries toute la journée. Donc ça vous donne raison, Laurent.
Et vous disiez l'affiche.
L'affiche, je la trouve magnifique. Je sais pas, je pense qu'ils ont mal réglé les éclairages parce qu'elle est très très éclairée de face.
Ah oui.
Tu sais, vous savez, au bout d'un moment, on ne voit plus du tout les traits de certaines chanteuses.
C'est fait pour.
Oui, justement, ça se remarque quand même, non?
Tu dis du mal de Mireille Mathieu aussi. Selon que la solidarité des nains est un mot. Je croyais que vous êtes entre vous, vous défendiez, non? Mimi?
Ah oui, il paraît qu'elle est toute petite.
Oui, je téléphone.
Toute petite à gros seins.
Non, la plus terrible de la table, c'était la photo dans Libération d'avant-hier, en dernière page.
Ah, très beau titre dans Libération.
Oui.
Pour le portrait de Mireille Mathieu. Une certaine idée de la frange.
mais la photo était tragique.
Qu'est-ce que vous lui reprochez, vous, à Mireille Mathieu, Maureen Dor?
Non, je ne lui reproche rien du tout. Je dis, il y a matière à se moquer, parce que c'est vrai que je l'ai vu chez Marc-Olivier Fogiel.
Deux fois, on l'a vu en plus.
Oui, on l'a vu deux fois. Et que
Dieu donné lui fait une pub.
Mais je pense que c'est Mireille qui a manifesté devant le studio, en fait. C'est pas du donné.
Et allez. Que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'elle doit être tellement tétanisée à l'idée des interviews. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle a de la brume dans le cerveau et que parfois elle ne comprend pas les questions.
On ne peut pas dire ça.
Je ne peux pas avoir le monopole.
Ça voudrait dire qu'il y a un cerveau d'abord, c'est beaucoup.
Je vais vous donner une information absolument formidable qu'elle m'a donnée un jour où je l'avais interviewée à la télévision. Hors studio, comme ça intéressait personne, c'était une émission grand public, c'est pas une émission pour un public choisi comme celui-là, c'est que son papa, qui a eu ses 11 enfants, et qui était tailleur de pierre, et très pauvre, près d'Avignon, dans sa carrière, il a fait une chose extraordinaire, c'est lui qui a construit la dalle qui est sur la tombe d'Albert Camus à Lourmarin.
Ah oui ?
Alors depuis, j'ai pour cette famille une sorte de... puisque c'est une tombe très, très discrète, très jolie, très, où vont des millions de personnes, et moi aussi. Et je trouve que c'est pas mal que ce vieux monsieur, comme ça, donc, chaque fois qu'elle en parle, elle pleure, un peu trop d'ailleurs. Je trouve que c'est
bien. Bah, voyez-vous aussi.
Voilà tout ce que j'avais à dire, plutôt que ces gros nichons et ces machins, une certaine idée de la France.
Dernier mail, et c'est à vous qu'il s'adresse, Paul Vermus. Est-ce que vous êtes doué en charade?
Pas vraiment.
Essayez. Ah, on va essayer ensemble. On peut jouer avec... Xavier, oui, oui. Mais c'est surtout destiné à Paul. Hein. S'il ne trouve pas, vous pouvez l'aider. Alors, Paul, mon premier est un cousin du zèbre et parfois surnommé bourriquet.
Anne.
Anne, bon. Mon second est le mot plein en anglais.
Full. Anne Full.
Voilà. Mon troisième est oui en russe.
Ah, da. Et mon tout va peut-être épouser et mon un tout, futur président.
Mon tout n'est jamais prononcé par Vermus dans votre émission.
Bah, je vous laisse le dire. Je vous laisse le dire, Laurent. Bah, j'ai finalement. Okay, ouais, vous savez que mon journal a été attaqué pour avoir donné son nom.
Oui.
Et j'avais quand même, quelques jours avant, une sorte de sixième sens. J'ai quand même préservé l'anonymat de cette journaliste.
Monsieur Sarkozy porte plainte, en
tout cas. Je sais. Oui, je sais. Donc j'ai bien fait.
Ouais, voilà. Et nous n'avons donné le nom que sous forme de charade.
Ouais, on ne l'avait pas donné il y a trois jours. On avait donné des indices. C'est pas pareil.
Et à part ça, elle fait quoi dans la vie, cette dame-là?
Journaliste politique au Figaro. Et maintenant, elle a changé, elle fait plus de politique pour être plus à l'aise. Donc, elle fait des portraits.
Mais tu parles de qui exactement, là?
De la dame de la charade.
Mais comment elle s'appelle déjà?
Eh bien, cousin du zèbre, plein en anglais et oui en russe. Allez, on se retrouve après la pub. Jusqu'à 18h, toujours Vermus, Lemoine, Diamant, Maureen Dor, Pierre Vénichou. Alors, Nicolas Sarkozy a-t-il raison de porter plainte, pas seulement contre François, mais aussi contre l'AFP, qui a repris l'information divulguée par François, information évidemment que tout le microcosme parisien, on va dire, et politique connaissait depuis maintenant 8 jours.
Écoutez, Nicolas... je vous arrête, je dirais un mois et demi. Hein.
Oui, facile.
Tout le monde le savait à Paris, voyons. Arrêtons cette hypocrisie, ça suffit.
Bah, non, pas
tout le monde à Paris, je suis désolé.
Oui, vous n'êtes pas journaliste, vous faites le clown sur la scène, c'est pas pareil. Nous, on est journalistes, on enquête et on savait.
Pourquoi ce mépris un petit peu?
Je vous remercie, j'ai reçu votre message sur votre SMS. Hein.
Ça vaut le coup. Hein. Oui, un mois plus, le SMS, ça met 3 semaines.
Un mois et demi que vous saviez et nous, on ne savait pas. Alors.
Non, s'il avait su il y a un mois et demi, genre, il ne l'aurait pas dit.
Non, absolument pas. Non, j'ai eu assez d'ennuis comme ça dans ma carrière, je ne vais pas les accumuler. Hein.
Pourquoi est-ce qu'il y a un mois et demi, on ne pouvait pas le dire, et pourquoi est-ce que maintenant, ça sort? Qu'est-ce qui a changé en un mois et demi?
D'abord, la rumeur se répand. Donc, elle se répand à ce point que tout le monde finit par le savoir. Et après, ça devient une hypocrisie collective généralisée. Donc, au bout d'un moment, il y a un journaliste qui le sait et qui le sort. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Ce que je comprends pas, c'est que vous dites que vous savez ça depuis plus d'un mois. Mais donc, ça a commencé quand, cette histoire? Très peu de temps après la séparation.
Oui, absolument. Bon, vous avez d'autres questions?
Oui, la question, par exemple, qu'on peut lire dans le journal La Provence aujourd'hui. Un célibataire peut-il briguer l'Élysée? Est-ce que ce n'était pas obligatoire pour le ministre de l'Intérieur de trouver une compagne? Car un homme seul peut-il finalement être président de la République?
Il y a eu des présidents de la République célibataires sous la Troisième République. Bénichou va nous donner des noms.
Puisqu'il les a connus.
Justement, on s'est creusé la tête pour en trouver.
Si, il y en a. Il suffit de reprendre le quid.
Il suffit de reprendre le quid. Reprends-le avant de venir. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé.
Tiens, à propos du quid, j'ai vu votre nom. Vous venez de rentrer dans l'édition 2006.
Ah, ça y est.
Ça y est.
C'est pas vrai.
Oui, avec Laurence Boccolini et Guy Carrier. Et on peut l'applaudir.
Pierre.
Moi, je dis Mazel Tov.
Toute notre campagne de l'année dernière a suffi à... Alors ça nous fait plaisir, Pierre. Regardez, il a un petit...
Oui, il est contentement.
Un petit air de satisfaction.
Pierre. Je savais que j'y arriverais.
Vous êtes content, avoué, de rentrer dans le quid?
Tu parles, vachement, et oh. C'est pas pour moi, c'est pour mes parents surtout.
Non mais avouez, on va vous l'offrir, Pierre.
Oh bah, normalement, nous qui sommes dans le quid, on nous l'envoie gratos.
Peut-être que même il y a une photo en une, non?
Écoutez, j'ai pas vérifié, je sais qu'il était avec deux autres poids lourds, donc Boccolini et Guy Carlier.
Elle est bonne.
Mais c'est déjà bien.
Ça lui fait moins plaisir déjà, ouais. Voyez. Ah, j'ai l'impression.
Excusez-moi, mais ma corpulence n'a rien à voir avec celle des personnes dont vous parlez.
Jamais dit que vous étiez corpulent, vous êtes grand et beau, c'est pas pareil. Vous avez une certaine classe.
Un peu flatteur quand même, Paul Vermus, là, sur ce coup-là.
Non,
mais c'est vrai, vous en avez
posé. Non, pas flatteur, comme toujours, servile.
Retirez ce que vous venez de dire, écoutez. Si vous me lisiez, vous ne tiendrez pas de propos aussi absurdes. Vous savez bien que je ne suis pas servile.
Mais bien sûr,
je suis même bête à dire autant de choses.
Pierre, il vous reste à rentrer dans le livre des records. Et ce matin, Libération consacre un petit article au Guinness 2006 avec toujours les records les plus cons, évidemment. Et Libé s'amuse, évidemment, à vous les donner ce matin, à faire un petit recensement des trucs les plus débiles. Le gars qui a les plus grands pieds du monde. Bon, ben voilà. Est-ce que c'est utile de savoir qu'il chose du 63, par exemple?
Ah, je ne savais pas que ça existait.
63, il met quoi, des sacs de sport, mais
une paire de 63 chez Berluti, ça doit coûter cher. Hein.
La plus petite femme du monde, eh ben voyez, c'est pas Morinder, 65 cm. Wow. Hein. Le plus grand objet retiré d'un estomac, une boule de poils de 2,5 kg.
Hey. Une boule de poils?
Une boule de poils. Oui.
Je t'avais dit, Caroline, quand tu t'épiles, tu ne manges pas tes poils.
Le mec devait être un gros mangeur.
Le plus grand calcul rénal, 356 grammes.
Oh, j'ai peur.
Et l'intérêt, c'est qu'on a la photo du calcul dans le Guinness des records.
Oh, ça donne envie d'acheter.
Le plus gros tour de poitrine, 3,15 m.
Non.
Ouais. Je la connais.
C'est un monsieur qui faisait 406 kilos.
Ah oui, je croyais que c'était des seins.
Non, oui,
j'imagine, là, tu sais, à ce moment-là, tu mets plus la soutien-gorge, tu mets un parachute.
Le saut le plus haut pour un cochon. 70 cm. Allez, non, c'est vachement utile. Pierre, est-ce que vous voulez qu'on fasse une campagne comme pour le quid pour que vous y rentriez l'année prochaine?
Il faut qu'il fasse quelque chose.
D'accord, mais qu'est-ce que je peux faire?
Le saut de cochon.
Saut de cochon, 70 cm.
Le record du brisage de pastèque à coups de tête. 22 pastèques en une minute.
22 pastèques en une minute.
Ouais.
Ça doit faire très mal.
Rien qu'avec
c'est
la tête.
C'est dur, une pastèque.
Hein, le poil de jambe le plus long.
On peut essayer de deviner?
Allez-y.
1m12.
Non, 12.
Non.
12 cm.
C'est tout, 12 cm.
C'est la cheville.
Ouais, c'est ça, 12 cm.
C'est énorme. Comment tu fais pour avoir des poils de 12 cm? Même si tu décides d'avoir des poils de 12 cm, t'en auras
non,
pas.
Non, mais ça, c'est pas des décisions en général. C'est...
Ah ben voilà. Donc, c'est beaucoup.
T'as beau être quelqu'un, être un décisionnaire connu et quelqu'un de très volontaire. Le volontarisme n'arrive pas à le faire pousser les poils.
Donc,
en général, un demi-centimètre, le faire grandir de 24 fois.
Le mamelon homme le plus long. Le mamelon long, homme, oui.
1m12.
8 cm, 89. Hey, qu'est-ce qu'il y a, Maureen Dallaire?
J'imaginais le mamelon de l'homme qui fait 8 cm.
Eh oui,
c'est un mini-sexe.
Le plus grand cafard, un cafard de 9 cm 70.
Ah, je sais, il est chez moi, celui-là.
Et le chien, alors qu'il a réussi à avaler le plus de balles de tennis de format réglementaire.
Le chien qui avale des balles de tennis.
Moi, j'ai essayé de battre le record, j'en ai perdu beaucoup des chiens.
5 balles de tennis. Là, le mien, par exemple, vous le mettez n'importe où, n'importe quel endroit, mon chien. Et ben, hop, il y a une balle de tennis qui traîne, il la trouve.
Mais il la mange
il la
pas.
Bouffe pas.
Pardon?
Il ne la bouffe pas.
Non, mais celui-là pas non plus, il la mange pas, il la met dans sa gueule. Lui,
non,
il en met 5.
Ah.
Non, je pense qu'il en met 5 dans sa gueule. Il avale pas la balle de tennis.
C'est pas une gueule, c'est un gouffre.
Béatrice Dalle doit y arriver.
Les ballons de basket.
Et le détenteur du record des vomi-bags récupérés dans les avions, eh bien Isabelle Mergo, vous le savez, on en a souvent parlé ici, qui fait collection des vomi-bags, est battue certainement parce que quelqu'un a récupéré 3728 sacs à vomi dans les avions. 3728 sacs à vomi.
Vide?
Bah oui. Et différents. C'est intéressant, hein, Guinness 2006 des records.
Ça donne envie de l'acheter.
Je vois que vous commencez à regretter d'être dans le quid plutôt que dans le guide des records.
Ah, moi, je préférais dans le guide des records, mais encore faudrait-il que j'en baptise un.
Bah, vous êtes le journaliste le plus célèbre qui a jamais écrit une ligne dans un journal.
Je pense qu'on se retrouve après la pub et un meurtre.